Ce podcast vous est présenté par Climatisation Paquette qui vous offre les produits Move Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous. Climatisation Paquette, c'est la vente, l'installation, la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. C'est la vente de produits Move Air, c'est des nouveautés et on offre désormais le service nettoyage de conduits de ventilation. C'est l'entretien d'aérotherme au gaz naturel fait par des techniciens certifiés. C'est ça, Climatisation Paquette.
Voici un podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec.
Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Une série consacrée aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec avec Denis Gravel. Fire! On revisite un moment clé avec des témoins et acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui.
Bienvenue dans cette conversation qui est un épisode de la série des grands événements. On a décidé de revenir sur plusieurs événements marquants à Québec. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a décidé de faire ça et une des raisons qui revient beaucoup dans les conversations qu'on a eues jusqu'à maintenant, ben c'est de constater que le devoir de mémoire, on le fait pas beaucoup. Il y a quelques années à peine, ça fait même pas 10 ans, il y a eu l'attentat de la mosquée à Québec. En échangeant avec des journalistes qui ont fait la couverture de l'événement, on a constaté qu'il y a des gens qui restent à Sainte-Foy présentement et qui savent pas ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. Il y a des étudiants qui étudient à Québec qui sont pas au courant non plus de ce qui s'est passé. On a souligné le triste anniversaire de ce qui s'est passé à Paris avec le Stade de France et le Bataclan il y a pas si longtemps. Il y a des gens qui ont entendu parler de ça pour la toute première fois. Donc, on a décidé de faire ce qu'on fait pas souvent en radio, de prendre le temps de s'isoler dans une bulle à l'abri de l'actualité et de retourner sur des événements marquants qui doivent être racontés et expliqués par des gens qui l'ont vécu. Et aujourd'hui, ben on retourne au 8 mai 1984 pour parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec Denis Lortie. Je vous résume les événements, puis après ça, on va en parler avec quelqu'un qui a fait la couverture de cette journée-là. À une époque où faire de la couverture médiatique, c'était bien différent qu'en 2025. Ce matin-là, à 9h25, Denis Lortie avait d'abord déposé à la station de radio CJRP à l'intention de l'animateur André Arthur une cassette audio. Les propos apparaissaient décousus. Denis Lortie s'inquiétait de l'avenir de la langue française comme du manque de respect des Franco hors Québec. Les menaces contre le Parlement n'apparaissent qu'au bout de plusieurs minutes. D'une voix douce qui s'efforce de soigner son langage, Lortie affirme « Je peux te dire une chose, le gouvernement va se détruire, je vais tous les tuer, tout tuer ce qu'il y a sur mon chemin. » À 9h35, 10 minutes plus tard, Lortie entre au Parlement. Au Salon Bleu, il n'y a à cette heure qu'une commission qui doit siéger. Yves Gaboury, employé du directeur général des élections, se trouve sur place. En entrant au Parlement ce jour-là, il s'est dit qu'il était vraiment facile d'accéder à ce lieu et soudain, il voit un militaire qui dépose un sac au sol et qui saisit une mitraillette. L'arme claque, le canon fume. Gaboury ignore encore à ce jour pourquoi les balles ne l'ont pas atteint. Un autre témoin, son collègue Gaétan Gingras, affirme avoir vu Lortie tirer et dire « Je fais le ménage ». Ses camarades et lui cherchent vite à se mettre à couvert. Le patron de Gingras se prend une balle dans la jambe. Gaétan Gingras fabrique en vitesse un garrot pour son collègue. Il est alors convaincu qu'il y a plusieurs assaillants qui sont au Parlement et qu'il a littéralement rendez-vous avec la mort. La fusillade fait 3 victimes, Camille Lepage, Georges Boyer, 2 messagers de l'Assemblée nationale et Roger Lefrançois, directeur général des élections du Québec. Ce matin-là, il y a un groupe de 110 écoliers de 11 ans qui se trouvent en visite dans l'enceinte du Parlement. Au moment du drame, ils sont dans le Salon Rouge. Pendant ce temps-là, le sergent d'armes René Jalbert se rend auprès de Denis Lortie. Jalbert est vu comme un héros aujourd'hui. Il arrive avec son manteau de style Colombo, un porte-document à la main, pas d'armes. Il s'approche de Denis Lortie. Il gagne tout de suite sa confiance et son respect. vétéran de l'armée, il comprend le caractère du militaire disjoncté qui se trouve devant lui. Il entre dans son jeu. Il voit bien qu'il a affaire à quelqu'un qui a perdu contact avec la réalité. Il prend le risque de jouer avec le feu. Il dit qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, qu'il a passé 30 ans dans l'armée, et il gagne le respect du militaire. Il manœuvre avec doigté en parlant au tireur sur un ton familier. Il lui serre la main, il s'allume une cigarette. La stratégie de René Jalbert est simple. Il veut discuter entre militaires, mais dans son bureau. Au même moment, il y a les policiers et le groupe d'intervention tactique qui sont prêts à passer à l'action. La stratégie de Jalbert, flatter Denis Lortie dans le sens du poil en lui disant que les policiers l'attendent pour saluer son courage et lui faire une aide d'honneur à sa sortie. La réalité est tout autre, il est arrêté dès qu'il se rend. Vous dire qu'à la suite de cette fusillade, Denis Lortie subit deux procès. Le 13 février 1985, il écope de 25 ans de prison ferme. La cour d'appel invalide ce procès-là. Et au deuxième procès, il est condamné le 11 mai 1987 à la prison à perpétuité, mais avec possibilité de libération après 10 ans. En 93, on juge qu'il ne représente plus une menace pour la société. Il obtient donc une libération conditionnelle en 1995, libre depuis. Il a fait la couverture de cette journée-là complètement folle. Il œuvre dans le monde des communications depuis 1975. Il a touché littéralement à tout, la radio, la TV, le web, animateur, journaliste, réalisateur, chef de l'information, chef de production, directeur des programmes, gestionnaire de haut niveau, spécialiste de la communication, mais aussi des affaires policières et judiciaires. Il est à la retraite depuis décembre 2024 et les auditeurs de longue date de Boulevard 102.1 vont le reconnaître instantanément en studio avec moi, Denis Langlois. Bonjour.
Hey, bonjour, Denis.
Première fois qu'on se parle de vive
voix. Absolument. On se connaissait de nom, de réputation, mais on ne s'était jamais rencontré.
Je n'ai entendu que du bien. J'ai vu que ça a été la grande visite puis les grandes retrouvailles avec tout le monde
ici. Les grandes retrouvailles, effectivement.
À quel endroit tu travaillais à l'époque de Denis Lortie?
Je travaillais à CFLS à Lévis, au rond-point à Lévis. J'étais journaliste aux affaires policières, mais la journée du 8 mai 84, je remplaçais le lecteur de nouvelles à l'émission du matin.
Okay.
C'était Paul Paquin qui était l'animateur du matin à CFLS à l'époque. Et puis, j'étais là pour faire les nouvelles. Et quand l'affaire est tombée, j'ai sauté dans mon corps de reportage, puis j'ai traversé rapidement sur la Rive-Nord pour me rendre au Parlement.
Comment les premiers échos se sont rendus à vous autres de ce qui se passait?
À l'époque, on avait accès aux ondes de la police.
Oui.
Alors, on avait des scanners, on appelait ça des scanners, mais des radiofréquences. Et puis, on entendait ce qui se passait. Toutes les communications étaient ouvertes à l'époque. Là. Maintenant, c'est crypté. Mm-hmm. On ne peut plus savoir ce que les policiers font. Mais à l'époque, là, c'était un grand livre ouvert. Là. On savait tout. Alors, quand un événement comme ça se passe, bien là, ça commence à s'agiter, ça crie sur les ondes. Et là, tu sais rapidement qu'il se passe quelque chose. T'sais. Alors, c'est ce qui est arrivé ce matin-là. Quand il s'est présenté au Parlement vers 9h40. Là, les policiers ont été alertés, puis là, ça s'est macrié sur les ondes qu'il y avait un tireur, effectivement, qui était entré à l'intérieur du Parlement. Et là, tout ce qu'il y a de policiers, soit la Sûreté du Québec, la Sûreté municipale de Québec, tout ce monde-là a convergé vers le Parlement. Les ambulanciers, tout ce qu'il y avait d'ambulances disponibles à Québec et Lévis, tout ça aussi, ça s'est mis en route pour le Parlement. Et c'est grave, là, c'est important. Là.
T'es arrivé dans le branle-bas?
Je suis arrivé, donne-moi 20 minutes à partir de Lévis pour me rendre à l'Assemblée nationale.
Mon Dieu, c'était le bon vieux temps, ça?
Oui, je suis arrivé. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça.
Oui.
Mais je suis arrivé dans le branle-bas de combat. À l'époque, la police n'était pas organisée du tout. Aujourd'hui, si un événement comme ça se produisait, il y aurait un périmètre de sécurité tout de suite, puis on ne pourrait pas approcher. Mais pour te dire à quel point c'était le free-for-all, là,
oui.
en bon français, j'ai stationné mon quart de reportage sans savoir vis-à-vis l'auto de Denis que Denis Lortie avait abandonné.
Pour vrai?
Pour vrai. Alors, parce que lui, il avait une petite Pontiac de location. Il, mm-hmm. avait, il avait pris une allée du Parlement, puis il est arrêté vis-à-vis une porte. C'est là qu'il est entré. Et moi, j'arrive là, dans le feu de l'action, et puis je me stationne là, et puis je marche jusqu'où la fontaine de Tourny maintenant.
Oui.
C'est là que tous les véhicules ambulanciers, les véhicules de police, tout était là, là. Ça se passait là. Puis on sortait les blessés par les portes avant du Parlement. Alors moi, j'arrive à ce moment-là. Là. On a commencé à évacuer les blessés quand j'arrive, pendant que d'autres policiers, eux, avec l'arme à la main, et à l'époque, les policiers avaient dans le coffre de leur voiture un fusil de calibre 12. Ce qu'on voit plus aujourd'hui, c'est ça a bien changé
ben
maintenant.
Oui.
Mais les policiers avaient tous un 12 à l'époque dans leur véhicule de patrouille. Fait que là, il y a plein de gens plein de policiers qui ont pris leur 12, qui sont entrés à l'intérieur du Parlement pour partir à la chasse de Denis Lortie, sans savoir que c'était lui à ce moment-là.
En tant que jeune journaliste, c'est quoi ton premier réflexe dans toute cette tornade-là? C'est-tu d'aller vers les blessés? C'est-tu d'essayer de trouver un porte-parole?
C'est tout ça en même temps, mais c'est beaucoup d'adrénaline, je dois dire.
J'imagine.
Il y a un tireur actif, là.
Là, est-ce qu'on sait qu'il y en a un? Est-ce qu'on se demande s'il y en a d'autres?
Non, on sait qu'il y en a un. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y en a juste un.
Mm-hmm.
On sait qu'il y a au moins un tireur actif, il y en a peut-être d'autres. Mais ce que, comme je disais tantôt, j'ai stationné ma voiture vis-à-vis celle de Denis Lortie. Et là, à un moment donné, les policiers viennent me voir. Parce que là, une première fois, à l'époque, il n'y a pas de cellulaire. Il faut se mettre dans le contexte.
Ben
à
oui.
l'époque, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Alors là, je descends de ma voiture, je m'en vais devant le Parlement, j'essaie d'obtenir le plus d'informations possible. Puis là, mon devoir, c'est de revenir en onde le plus rapidement possible. Alors, je reviens à ma voiture. Et là, je fais. Dans ce salon, on a des radios, téléphones, VHF. Alors là, je fais une première intervention en direct à la radio. Et là, pendant que je suis en onde, ça frappe à ma porte, ça frappe dans ma vitre. Puis là, il y a le policier qui dit « Écoute, faut que tu te tasses parce qu'il dit, il y a peut-être une bombe dans la voiture qui est là. » Parce que là, à un moment donné, ils ont pensé que, vu qu'il était lourdement armé, il avait peut-être pensé d'apporter des explosifs avec lui. Alors là, à ce moment-là, on m'a demandé de me déplacer. Fait que là, j'ai trouvé de reculer pas mal de mètres parce que j'étais vraiment au cœur de l'action.
Hey, c'est
alors,
cool de le dire.
Ce que j'ai fait. Puis après ça, c'était de retourner toujours à l'avant pour voir ce qui se passait.
Ouais.
Puis à un moment donné, il est arrivé un porte-parole de la Sûreté du Québec qui s'appelait Pierre-Yves Bourgault.
Mm-hmm.
Qui habite maintenant dans la région du Kamouraska, est à la retraite depuis plusieurs années. Puis c'est lui qui était le porte-parole de la Sûreté du Québec pour cet événement-là. Alors lui confirme qu'il y a un tireur actif, qu'il y a des blessés. On ignore le nombre à ce moment-là parce que ça a pris plusieurs heures avant qu'on puisse connaître toute l'histoire, là, avant qu'on puisse démêler tout ça, parce que c'était vraiment le bordel. Tu sais, tout le monde s'en allait de tout bord, de tout côté, les policiers, les ambulanciers. La situation était vraiment chaotique. Là. C'est le seul mot que je peux employer pour décrire. Aujourd'hui, ça serait probablement beaucoup plus méthodique,
mm-hmm.
mais à l'époque, c'était chaotique.
Est-ce que, dans le day-to-day de l'actualité de l'époque, on faisait mention du manque de sécurité à l'Assemblée nationale
non.
avant cet événement-là?
Non.
C'était pas une priorité
non,
pour personne.
Non, c'était pas une priorité. C'était comme ça à l'époque.
Mm-hmm.
C'est là, aujourd'hui, ça a bien changé. C'est pas d'aller au Parlement si tu n'es pas invité. Tu n'entreras pas. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça.
Et même après les événements du FLQ dans les années 70 et tout ça, on n'avait pas pensé...
On avait peut-être élevé ça d'une coche, mais pas tant.
Ouais. Parce que lui est rentré là-dedans...
Comme dans un moulin.
Ouais.
Tu sais, comme je disais, il stationne sa voiture sur le côté du Parlement, sur Grande Allée. Il y a une porte vis-à-vis. Il rentre, la porte est débarrée. Il rentre par là. Tu sais, les portes étaient déverrouillées. Et les gens ne font même pas ça chez eux, à leur résidence. Puis au Parlement, tu étais là, puis la porte était déverrouillée.
Quand on a procédé à son arrestation, ouais. est-ce que vous l'avez vu sortir de l'Assemblée nationale?
On l'a vu passer dans une voiture fantôme de la Sûreté du Québec.
Okay.
Il était assis sur la banquette en arrière. La banquette arrière, il était penché un petit peu. Mais on l'a vu. Et les journalistes ont failli se faire prendre à ce moment-là parce que la Sûreté du Québec a décidé de faire un point de presse au moment où il avait accepté de se rendre pour pas qu'on voie passer, pour pas qu'on voie...
Une forme de diversion.
La police ouais. a fait une forme de diversion, sauf que les caméramans, eux, étaient restés là,
mm-hmm.
et moi et un collègue, on s'est dit, il se passe quelque chose, tu sais, parce que dans ce temps-là, on entendait les conversations, entre autres des membres du groupe d'intervention. D'ailleurs, la mise en contexte, c'est que le groupe d'intervention, il venait d'être formé à Québec. Okay. Ça faisait pas très, très, très longtemps que le groupe d'intervention... C'était un de leurs premiers événements majeurs.
Ça en était tout un.
Ça en était tout un. Et puis, c'est ça, il y avait eu des négociations avec Denis Lortie et René Jalbert. Et j'ai rencontré un policier, il y a pas longtemps, qui me disait que René Jalbert était furieux contre les policiers du groupe tactique d'intervention parce que il voulait que ça, il avait dealé avec Denis Lortie, M. Jalbert, que ça allait se faire dans l'ordre. Comme tu disais tantôt, là, la haie d'honneur et tout ça, mais c'est pas ça qu'il l'a attendu. Là.
Non.
Il a pris ses armes, on lui a demandé de déposer ses armes dans une poubelle, ce qu'il a fait, et là, il est sorti en pensant que ça allait bien se passer, sauf que la première chose qui est arrivée, c'est quand il a mis le nez dehors du bureau de M. Jalbert dans le corridor, il s'est fait sauter dessus, il s'est fait projeter par terre, puis il s'est fait menotter violemment. Et ça, M. Jalbert avait pas aimé ça. Alors, il avait manifesté son mécontentement à l'endroit des policiers en disant « C'était pas ça le deal, vous deviez faire ça calmement, puis tout ça. » Puis, en tout cas, c'était une anecdote parmi tant d'autres, là, mais c'est comme ça que ça s'était terminé.
M. Jalbert, René Jalbert, est-ce que c'était un homme connu du public,
pas
ça?
Du tout.
Pas du tout, hein?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'avais jamais entendu son nom avant le 8 mai 1984. Mais lui, c'est le héros de la journée. C'est une triste journée dans l'histoire du Québec, mais il y a un héros qui a émergé de cet événement-là, c'est lui.
En tant que professionnel des communications, est-ce que c'est ça qu'on enseigne? Comment communiquer à un tireur fou? Il y avait un sang-froid phénoménal.
Incroyable, mais heureusement, le courant a passé entre lui et Denis Lortie, parce que quand Jalbert est mis au courant de ce qui se passe, il arrive, là, il rentre dans le Parlement, il a son manteau à la Colombo, c'est un paletot beige,
ouais,
tu sais, puis avec sa petite mallette. Puis là, il sait qu'il se passe quelque chose, puis que le tireur est à l'intérieur du salon bleu. Alors, on le voit arriver dans la porte, les images, on voit ça comme c'était hier, là. On le voit arriver dans la porte, il se penche, il regarde, puis là, il voit Denis Lortie qui est assis sur le trône du président, puis là, il commence à lui parler. Et là, le courant passe entre les deux, parce que il explique que lui aussi, c'est un ancien militaire, puis etc., etc., etc.
J'ai regardé les images de nouveau aujourd'hui, puis quand tu les sors de leur contexte, t'as l'impression que René Jalbert rentre comme dans un téléroman. Il y a un naturel qui clash complètement avec la situation.
Un calme extraordinaire. Là.
Puis t'as l'impression que même Denis Lortie est désarçonné de voir avec quel naturel il se fait aborder une conversation comme s'il était en train d'acheter des gratteux d'un dépanneur.
Denis Lortie, lui, l'adrénaline doit être au plancher là, parce que il vient de tuer du monde. Il rentre dans le Parlement, là, il mitraille tout ce qu'il y a dans le Parlement. Et lui, il doit être très énervé. Puis là, il voit arriver ce gars-là d'un calme incroyable. Puis là, ils se mettent à jaser, ancien militaire et tout ça. Et là, vraiment, là, le courant passe entre les deux. Et puis, M. Jalbert offre une cigarette à Denis Lortie. Puis, ils commencent à tirer une cigarette ensemble et tout ça. Et puis, M. Jalbert, lui, pour essayer de calmer le jeu, il offre à Denis Lortie de le suivre à son bureau. Il demande à Denis Lortie, gars, suis-moi, on va aller à mon bureau en bas, on va être beaucoup plus tranquille.
Combien de temps ça a duré, tout ça?
Ah, écoute, ben, en tout et partout, ça commence à 9h40 puis ça finit à 14h20.
OK.
OK. Ça, c'est la durée totale de l'événement. Sauf que ils ont dû jaser à peu près 20-25 minutes dans le salon bleu, puis après ça, ils se sont rendus au bureau de M. Jalbert au sous-sol, puis là, ça s'est terminé vers 14h20.
T'sais. OK.
Fait que c'est ça. Ils ont jasé, puis là, ben, le groupe d'intervention, le négociateur a commencé son travail, fait que là, il a appelé au bureau de M. Jalbert, mais on commençait à négocier la reddition de Denis Lortie, qui voulait pas se rendre. Au début, il voulait rien savoir de se rendre. Il n'en était pas question. Mais finalement, ils ont réussi à le convaincre qu'il fallait que ça finisse. Alors, les policiers, eux, une fois que Jalbert s'est enfermé dans son bureau avec Denis Lortie, le groupe d'intervention est arrivé et est allé s'installer dans le bureau voisin de M. Jalbert. Fait que là, ils entendaient tout ce qui se passait dans le bureau voisin. Et là, ils ont commencé à négocier. Puis ça a pris quelques heures. Là, je pense qu'il est arrivé au bureau un peu avant 11 heures. Puis c'était à 14h15-20 où ça s'est terminé. T'sais, fait qu'ils ont négocié avec lui et tout ça. On ne sait pas s'ils ont permis d'y envoyer de nos nourriture et tout ça. Ça, c'est, ce bout-là n'est pas connu. Mais ça a négocié, puis ils ont fini par avoir la reddition de Neil Horty. Mais ça, c'est pour la sortie, n'a pas été celle que lui espérait, parce qu'il pensait sortir en héros. Puis finalement, il a été traité en criminel, ce qu'il était.
Qu'est-ce qu'on a su par la suite sur l'état mental de Neil Horty, puis qu'est-ce qui l'a amené ce matin-là à l'Assemblée nationale?
Bien, son psychiatre, c'était le docteur Pierre Mailloux.
Doc Mailloux.
Connaît bien, qui est décédé maintenant. Lui, c'est lui qui était le psychiatre de Neil Horty. Il dit qu'il souffrait que Neil Horty souffrait de schizophrénie paranoïde et qu'il aurait organisé son crime à la suite d'un délire psychotique. Okay. Alors, Horty croyait agir selon la volonté de Dieu et il disait suivre une lumière. OK. Alors, c'est ça qui... Il allait pas bien. Il y en avait contre les séparatistes, si on va appeler les choses par leur nom. Il y en avait contre le Parti québécois de René Lévesque, qui était au pouvoir à ce moment-là.
Il faisait une fixation là-dessus.
Il faisait une fixation là-dessus. Le PQ voulait sortir du Canada, puis pour lui, c'était impossible. Tu sais, le Québec faisait partie intégrante du Canada. Puis lui, il avait eu la lumière là, qu'il fallait qu'il défende ça. T'sais. Alors, c'est pour ça que ce matin-là, il se présente au Parlement dans l'espoir de tirer sur tous les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Parlement siégeait en après-midi, le 8 mai 1984. En fait, c'est encore comme ça aujourd'hui. Le mardi, l'Assemblée nationale, c'est un mercredi, hein, ça, c'est arrivé, oui. Le Parlement siégeait en après-midi. Lui, il s'est présenté là le matin. La seule activité qu'il y avait au Parlement, c'est une commission parlementaire, comme tu disais tantôt dans ton introduction.
Donc, beaucoup moins de monde sur
pas de monde. Écoute, ouais. il rentre dans le salon bleu, il est seul. Heureusement, les caméras de la télédiffusion des débats tournent et filment tout ce qui se passe. Alors, on a vu des extraits de ça pendant des années, mais ça avait été tourné par les gens de la télévision des débats.
Denis Langlois, à l'époque, il y avait beaucoup de stations de radio qui faisaient une couverture très locale. Est-ce qu'on était en compétition directe avec tous les journalistes qui étaient autour ou on travaillait en collaboration à cette époque-là?
On était en compétition. Il n'y avait pas de collaboration possible.
Non, hein?
Non. Tout le monde est en compétition. Là. Tout le monde est là.
De savoir cette journée-là qu'il y avait une cassette audio d'une quinzaine de minutes de témoignages de Neil Horty qui s'était rendu sur le perron d'une station concurrente.
En fait, sur le chemin du Parlement, il s'est arrêté à CJRP sur le boulevard Laurier, au coin du chemin Saint-Louis. Il a sonné, on lui a répondu. C'est Myriam Segal, la recherchiste d'André Arthur, qui a travaillé longtemps, qui a été la collaboratrice d'André Arthur pendant très longtemps. C'est elle qui le reçoit. Et là, il lui remet une cassette sur laquelle c'était écrit « Ne pas ouvrir avant 10 heures ». En fait, il voulait voir André Arthur, mais c'était pas possible parce qu'il était en pleine émission. Il était en onde à ce moment-là. Donc Arthur ne pouvait pas le recevoir. Il a envoyé la recherchiste. Et puis, il a laissé la cassette. Il est parti pour le Parlement. Sauf qu'avant d'arriver au Parlement, il a fait un petit arrêt devant la citadelle où il a sorti son arme puis il a tiré plusieurs rafales dans l'allée de la citadelle.
Dans le vide.
Dans le vide. Juste pour... Fait que là, c'est là que la police a été... L'appel est arrivé au service de police de la Ville de Québec pour des coups de feu tirés à la citadelle.
OK.
Ça, c'est l'appel initial. C'est là que tout commence.
Oui.
Mais lui, il remonte dans sa voiture, puis là, il s'en va au Parlement, puis là, il rentre à ce moment-là. Mais Myriam Segal, elle, ce qu'elle n'a pas attendu à 10 heures pour écouter la cassette, là, elle est allée dans un studio, elle a mis la cassette dans un lecteur, puis elle a écouté ça. Puis là, elle a bien vu que c'était quoi qu'il projetait. Alors, elle aussi, elle a pris le téléphone, puis elle a appelé la police en disant, écoute, il y a un gars qui vient de revenir ici, il nous a laissé une cassette, il s'en va tirer au Parlement. Mais quand elle a appelé, c'était déjà commencé. Le temps qu'elle écoute la cassette et tout ça, c'était déjà commencé. La fusillade était en cours. T'sais, mais écoute, en l'espace de 3 minutes, là, il a fait 3 morts et 13 blessés. Tout ça se passe en 3 minutes.
Là. C'est incroyable. Hein?
C'est incroyable. Puis après ça, il s'en va au Salon Bleu, puis là, les coups de feu, c'est fini. Il y a une salve de coups de feu, là, parce qu'il mitraille le Salon Bleu. Puis après ça, Jalbert arrête. Puis là, à ce moment-là, il n'y a plus de coups de feu de tirer. Là. Ça s'est terminé là. Mais en 3 minutes, là, il fait 3 morts, 13 blessés.
Ouais. C'est quoi vos souvenirs du premier procès?
Écoute, je ne l'ai pas couvert, parce que dans ce temps-là, les salles de nouvelles étaient pas mal mieux garnies qu'elles le sont aujourd'hui. Fait que,
il y avait des salles de nouvelles en partant.
Il y avait des salles de nouvelles. Ben oui. Alors moi, j'étais aux affaires policières et judiciaires, puis il y avait quelqu'un qui faisait le judiciaire.
OK.
T'sais? Fait que moi, j'ai pas couvert le procès.
Mm-hmm.
Je sais qu'il y en a eu deux. Puis comme tu disais, il a été condamné à 25 ans, minimum, emprisonnement à vie avec 25 ans. Il a porté ça en appel. La cour d'appel leur donnait un nouveau procès. Puis après ça, ben là, il y a eu une nouvelle condamnation. C'est en le 11 mai 87, après un deuxième procès ordonné par la cour d'appel, l'Ortiz a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 10 ans à purger avant d'être admissible à une libération conditionnelle. C'est qu'on a reconnu que son état mental était très malade,
mm-hmm.
sauf qu'il s'est soigné. Après les événements, il a accepté de soigner. Puis c'est ça que la Cour a vu finalement, que à ce moment-là. Il aurait pu, aujourd'hui, on aurait probablement invoqué non criminellement responsable.
Ouais,
ça, il y aurait probablement une peine là, non criminellement responsable de ses gestes. Mais à l'époque, on avait reconnu que, bon, il les avait commis et tout ça. Mais aujourd'hui, on plaiderait sûrement pas la même chose qu'à l'époque. Mais en tout cas, il a fait ses 10 ans et puis il a eu une très bonne conduite en prison, de sorte qu'il y a eu une première libération conditionnelle avec condition en 1995, et puis il y a eu une libération totale en 2007. Et sais-tu que l'artiste est un gars de Québec?
Mm-hmm.
Il travaillait dans une base militaire en Ontario,
oui.
À Carp, en Ontario, où il était magasinier, alors responsable des approvisionnements. C'est là qu'il s'était procuré les armes et les munitions qu'il avait apportées avec lui au Parlement.
De par sa fonction,
il avait accès à ça. Alors lui, ça avait été très facile de se procurer les armes. Il était originaire de la ville de Québec. Et après sa libération, en 2007, il est allé s'installer en Estrie, dans la ville de Cantley, où il s'est porté acquéreur d'un dépanneur,
oui.
D'une épicerie. Et c'est les dernières nouvelles qu'on a eues de Neil Ortiz.
Est-ce qu'il est encore en vie?
Écoute, il serait toujours en vie. Il a 63 ans aujourd'hui.
Il a réussi à refaire sa vie.
Il avait 22 ans à l'époque.
Mm.
Puis il en a 63 maintenant. Et il serait toujours en vie. Est-ce qu'il est encore propriétaire du dépanneur? Je ne le sais pas. Mais il est toujours en vie.
Si on revient à la journée du drame, j'essaie de trouver des équivalences, puis je me rappelle la journée du 11 septembre 2001.
Ouais.
Il arrive un paquet d'informations, il se passe un paquet de choses, puis là, on se demande, là, c'est-tu fini? Il y a combien d'avions? Il y a comme plein de questions qui restent en suspens. Combien de temps dans cette journée-là, il y a eu comme un peu de panique sur Québec à savoir, c'est-tu un plan, sont-tu plusieurs, c'est-tu fini, et ainsi de suite.
Je te dirais que ça a pris une heure.
OK. Ça n'a pas été long.
Il y a eu une heure vraiment chaotique, là. Tu sais, où on ne savait pas où se donner de la tête, puis on ne savait pas qui faisait quoi, puis qui était où. Puis il y a eu une heure chaotique. Puis là, quand la Sûreté du Québec est arrivée avec son porte-parole, là, ils ont fait des points de presse réguliers pour nous. On nous a dit, écoutez, il y a un seul tireur. Ça, c'était une des premières interventions en disant, écoutez, il y a un seul tireur. Maintenant, il est encerclé, il est au Salon Bleu, il est encerclé, il n'y a pas eu d'autres coups de feu.
Mm-hmm.
Et puis après ça, ben, il disait, écoute, on négocie. T'sais, dans les heures qui ont suivi, c'était on négocie, jusqu'à 14h15, 14h20, où là, on nous dit, il a accepté de se rendre, il vient de se livrer aux membres du groupe tactique d'intervention. T'sais, mais pendant ce temps-là, ben, tu t'extrapoles. Là, parce que quand tu n'as pas beaucoup d'infos, là, ben là, t'es dans l'extrapolation.
Y a-tu eu des rumeurs qui, avec du recul, tu te dis, ben là, on était rendu loin? J'imagine qu'il y a eu une couple d'histoires qu'on a peut-être oubliées au fil des années.
Je dirais pas vraiment.
Non?
Mais tu sais, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, là.
Mm-hmm. Ben, mais pour vrai, c'est incroyable de s'imaginer qu'est-ce que ça aurait été comme journée avec les réseaux sociaux, la journée
écoute,
de
imaginer. En fait, j'ose pas imaginer.
Ouais.
Ça doit être épouvantable. Là, il y en aurait eu des rumeurs.
Du n'importe quoi, n'importe comment.
Il y aurait eu du n'importe quoi, du n'importe comment, puis des rumeurs de toutes sortes, les plus farfelues.
Ouais.
Mais dans ce temps-là, les gens se fiaient aux médias. Ça, c'est la radio qui était le média par excellence pour un événement comme celui-là. Alors moi, je me souviens, j'allais en ondes le plus souvent possible. Puis à l'époque, CFL-là s'était abonné à une agence de presse qui s'appelait Nouvelle Téléradio. Ça, c'est la presse canadienne. semaine. Oui. Et le devoir de cette de NTR, c'était d'offrir des bulletins de nouvelles aux stations privées du Québec, à l'ensemble des stations privées du Québec et même ailleurs au Canada francophone. Alors moi, mon rôle pendant ces heures-là, c'est que j'alimentais ma station, je faisais des directs à peu près aux 15-20 minutes, et à l'heure, j'allais à l'édifice André-Laurendeau derrière, où il y avait les studios de NTR, et il y avait un bulletin au top de l'heure, il y avait un bulletin spécial d'information. Alors, je me souviens pas qui était le journaliste qui était avec moi. Lui, c'est le journaliste qui était affecté à l'Assemblée nationale. Alors, lui faisait les réactions politiques. Mm-hmm. Et moi, j'étais le deuxième intervenant dans le bulletin pour faire le point sur l'opération policière qui était en cours. Là, t'sais. Alors, on a fait ça toutes les heures, là, jusqu'à 5-6 heures l'après-midi, même si ça s'est terminé à 14 heures. Là. Mais alors, c'est ça que on a été très occupés. Là, t'sais, très, 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 très occupés.
Ça a pris combien de temps avant que ça devienne un événement national ou peut-être même international, puis que là, le cirque médiatique débarque au grand complet autour de l'Assemblée? Ça n'a pas été long?
Non, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Dans l'heure, c'était devenu un événement national, là, et même international.
Ça a-tu été bien long avant que les alentours de l'Assemblée nationale changent? Comment les politiciens avaient réagi à l'époque? Puis est-ce que là, la sécurité, c'est comme devenu l'enjeu numéro un du jour au lendemain?
En fait, la journée même, les politiciens disaient qu'il y avait un manque de sécurité. C'était le point numéro un là, qui s'est sorti, c'est qu'il y avait un manque de sécurité à l'Assemblée nationale. T'sais. Mais les élus, pour pas avoir l'air de céder à l'intimidation, les élus ont recommencé à siéger le lendemain.
Pour passer un message.
Pour passer un message que, regarde, il n'y a personne, il n'y a rien ni personne qui va arrêter la machine, qui va empêcher le gouvernement de faire ce qu'il a à faire. Fait que le lendemain. Sauf que là, tout le monde s'est assis. La sécurité du Parlement, la Sûreté du Québec, la police de Québec. Et là, ils ont convenu que ça pouvait pas se reproduire un événement comme ça. Et là, il y a eu des mesures de sécurité très importantes qui ont été mises en place au Parlement. Ça a changé. Quand on est passé de 0 à 200%, là, tu sais, ça a changé là, du tout au tout. Alors maintenant, quand tu entres au Parlement, tu es obligé de passer dans un détecteur. D'abord, tu te présentes pas là si tu n'es pas invité. Il y a les groupes encore, ils reçoivent encore des groupes de visiteurs, mais c'est sur réservation maintenant. Ben. Après ça, tout le monde passe au détecteur de métal. L'identité de tout le monde est vérifiée par la Sûreté du Québec. Alors, ils vérifient ton identité et tout ça. Puis là, si tout ça est conforme, si tu es invité, puis que tu n'as pas de dossier, puis que tu montes patte blanche, là, tu peux entrer au Parlement. Mais c'était pas comme ça en 1984.
Mais malgré tout ce qui a changé, je regarde les événements qui ont marqué la ville de Québec, puis la notion de quelqu'un qui perd un peu son sens du jugement, qui perd la raison, puis qui dit « moi, je m'en vais tuer du monde », ben c'est arrivé dans les années 80 avec Denis Lortie, c'est arrivé à la mosquée des années plus tard, c'est arrivé aussi avec l'homme au sabre, la soirée funeste de l'Halloween dans le secteur du château Frontenac. Qu'est-ce que ça vous fait dire, ça, sur, pas nécessairement la sécurité, mais les enjeux de santé mentale? On dirait qu'au niveau d'être en mesure de prévenir ces événements-là, on n'a pas beaucoup évolué.
Je te dirais que c'est l'enjeu de l'heure. Mm-hmm. C'est l'enjeu de l'heure. Parlons aux policiers, tu sais, c'est incroyable comment est-ce que les cas de santé mentale occupent leur quotidien maintenant. C'est 50-60% de leur travail, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, tu en avais un de temps en temps, mais maintenant, là, ils sont confrontés à ça au quotidien. Et heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis et qu'on ne puisse pas se procurer des armes facilement, parce que ça serait le Far West. Là.
Mais encore une fois, il était magasinier pour l'armée, avait accès à des munitions.
Deux mains dedans,
là. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de gens qui voulaient prendre une ZEC de façon indépendante et qui ont réussi à sortir des armes de la base militaire de Valcartier, entre autres.
Bien qu'ils disent que non.
Je sais pas, est-ce que l'histoire est condamnée à se répéter tout le temps? C'est un peu la question que je me pose par rapport à tout ça.
Je pense que malheureusement, oui. Ouais. On va en revivre d'autres événements comme ceux-là. On est mieux préparé à y faire face, mais je pense que le problème à la base, la santé mentale, tu peux rien contre ça.
On en parlait comment de la santé mentale en 1984?
On n'en parlait pas.
On disait qu'il était fou.
C'était des cas isolés.
Ouais.
C'était un cas isolé. Aujourd'hui, c'est des cas qui sont beaucoup plus fréquents. Mm-hmm. Tu regardes, là, pas plus tard que cette semaine, il y a quelqu'un qui a foncé dans la centrale de police, la
à Charlebourg, centrale de ben police oui.
dans le Bourgneuf. Là. On pense que c'est un cas de, c'est un autre cas de santé mentale. Mm-hmm. Alors, on veut, veut pas, c'est le problème maintenant le plus important auquel les policiers sont confrontés, la santé mentale. Puis, les policiers sont devenus beaucoup plus psychologue aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Mm. Tu sais, à l'époque, un policier, c'était une chicane de ménage, site des claques à gueule, des batailles le soir dans Saint-Roch, des affaires comme ça, puis il séparait ça, puis tout ça, puis des fois, il y a une couple de claques à gueule qui se perdait, puis ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Les nouveaux policiers, là, ils sortent de Nicolet, ils sont... puis bien qu'ils ils sont placés en situation, là, ils font beaucoup de simulations
oui.
À Nicolet, entre autres, sur les drames, les crises de santé mentale et tout ça, mais ils vont dire qu'ils sont pas vraiment formés pour ça. Ils font face à ces cas-là tous les jours, mais c'est pas des travailleurs sociaux, c'est pas des psychologues, c'est pas des... T'sais. Alors, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et puis, le système a évolué, c'est que t'sais, quand il y a eu la désinstitutionnalisation à Robert Giffard, oui. on a dit, gars, ceux qui sont pas trop malades, on va les laisser sortir. Et ça a causé un méchant paquet de problèmes. Là.
Ils ont été laissés à eux-mêmes souvent.
Puis là, ils se sont mis à faire des vols, puis des ci, puis des ça, puis attaquer du monde. Puis, tu sais, écoute, on peut pas nier ça, c'est arrivé. Là. Fait que les gens, maintenant, on les hospitalisait. À l'époque, on les hospitalisait. Aussitôt que tu disais, quelqu'un est fou, il l'hospitalisait pendant 20 ans, mais il ne soignait pas.
Exact.
Alors aujourd'hui, on peut les soigner. Fait qu'on en sauve une partie. Il y en a qui tu sais, comme Denis Lortie, il s'est réhabilité. Mais il y en a d'autres qui ne se réhabilitent pas puis qui sont des gens dangereux. Puis c'est avec ces gens-là maintenant que les policiers doivent composer au quotidien. Mais on n'est pas à l'abri de ces menaces-là. Tu sais.
Denis Langlois, est-ce que c'est l'événement le plus important que tu as couvert?
Il y en a deux. Celui-là, c'est le plus important, c'est sûr, mais il y a eu l'écrasement d'un avion de Québec Air en 1979.
Ça, c'est avant. Hein?
Oui. Ouais, 1979, oui. 5 ans avant, le 29 mars 1979. 17 morts, 7 blessés.
Mm.
L'avion décollait pour Montréal et s'est écrasé. En fait, il a réussi à décoller, mais a perdu une pièce de moteur. Puis le pilote a tenté de revenir pour se poser, mais malheureusement, il ne s'est pas rendu sur la piste. Il s'est posé au seuil de la piste dans le champ du Collège Champigny.
On parle des policiers qui maintenant sont formés avec des simulations mm-hmm. et tout ça. J'ai l'impression qu'au niveau du journalisme, on disait que les policiers maintenant sont laissés un peu à eux-mêmes. Le journalisme, on dirait que tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu. Quand l'adrénaline embarque pour un événement comme celui-là puis qui sort de la routine, est-ce que l'instinct embarque rapidement? Est-ce que pendant un certain moment, on est comme en surexcitation? Quand on embarque sur des événements comme ceux-là...
Hey, je vais te dire quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais secrètement, tu rêves à ça? De vivre ça?
En tant que journaliste?
En tant que journaliste.
Ben, c'est parce que, si je peux l'expliquer...
C'est terrible, là, parce qu'il y a des gens qui sont décédés là-dedans.
Oui, mais c'est ces moments-là qu'on est le plus utile.
Mais comme journaliste, tu veux vivre ça, tu sais. Mm-hmm. Tu veux vivre un événement comme celui-là. C'est comme le 11 septembre en 2001, là, si mon boss m'avait dit, écoute, tu t'en vas à New York, là, j'aurais pris le premier avion où je serais allé en auto puis je me serais rendu, là, tu sais. Tu veux vivre ces événements-là comme journaliste, là. Parce que effectivement, ton devoir, c'est de rapporter les faits, de rapporter les événements, de les commenter. Alors, tu veux vivre des événements comme ceux-là.
Est-ce que le journalisme, avec un J majuscule, a beaucoup perdu avec les nouvelles technologies, maintenant qu'on n'a plus besoin de se rendre sur place? Puis...
Le journalisme a beaucoup perdu, oui, parce que, t'sais, on en parlait tantôt, il n'y a plus de salle de nouvelles.
Mm-hmm.
Il y a à peu près un journaliste par station à Québec, puis encore.
On a perdu des stations. T'sais, les stations ont perdu des salles de nouvelles.
On a perdu des salles de nouvelles. T'sais, moi, je me... 1984, là, à l'automne, je suis arrivé à CJRP parce que je suis passé de CFLS à CJRP. Puis à CJRP, là, on était 6 journalistes.
Hey.
OK, il y en avait un au Fait divers, moi. Il y en avait un au Palais de justice. Il y en avait un au municipal. Il y en avait un, je me souviens pas trop pourquoi. En tout cas, on avait toute une spécialité.
C'est incroyable.
Puis il y avait des nouvelles à la radio de 6 heures le matin à minuit le soir, à chaque heure, les samedis et dimanches inclus. Tu vois plus ça maintenant.
Écoute, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait trois stations de radio sur le FM et deux stations de radio sur le AM où tu avais de l'information en continu régionale sur les mêmes heures. On avait des bulletins de nouvelles télévisés le midi et le soir sur trois stations de télévision. On avait un talk show de fin d'après-midi de région à la télévision. On a tout perdu ça.
Ben oui, on a tout perdu ça. Fait que le journalisme n'est plus ce qu'il était. Maintenant, ben, c'est les chaînes en diffusion continue, RDI, LCN. Mm. C'est là que ça se passe pas mal à la télé. Fait qu'ils braquent, ils mettent un journaliste devant le cordon policier avec une caméra, puis il est là toute la journée, puis ouais. Il va parler au porte-parole de la police 3-4-5 fois dans la journée, voir s'il y a des développements. T'sais, le journalisme a beaucoup changé. Mais à l'époque, chaque station avait son journaliste affecté aux affaires policières et judiciaires.
Quand on prend sa retraite dans ce contexte-là, on le prend-tu un peu par dépit ou par tristesse de ce que c'est devenu?
Bien, j'étais très triste quand j'ai annoncé mon départ, quand je suis parti à la retraite il y a un an, parce que d'abord, il ne me remplaçait pas, j'étais chez Bell. Uh-huh. Il avait décidé de ne pas me remplacer. Alors, c'est déjà là, c'est les nouvelles locales à la radio l'après-midi sur une autre antenne qui disparaissait définitivement. T'sais. Fait que ça, je suis très triste de ce que le journalisme est devenu.
Quand on est journaliste pendant toutes ces années-là, et qu'on est à la retraite, puis qu'il y a un événement, ça doit démanger un petit peu.
Tu dis.
De repartir sur le terrain comme dans le temps.
En fait, j'ai gardé toutes mes notifications. Je sais tout ce qui se passe en temps réel encore.
Ah oui?
Oui, je n'ai pas réussi à déconnecter. Tu sais. Puis si je suis sur la route, puis que je vois qu'il y a un feu à quelque part, ben hop, je dis bifurque, puis je vais faire un tour.
Le réflexe est encore là.
Le réflexe est encore là. Je salue les porte-paroles. Tu sais, on se voit deux, trois fois par année, là, depuis. Mais tu sors le gars de ça, mais tu sors pas ça du gars.
Denis Langlois, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
J'espère qu'il y a des gens qui ont peut-être eu de l'information puis du feeling pour la première fois sur ces événements-là. Pour les autres, ça fait du bien d'y revenir un peu, le devoir de mémoire qu'ils disent.
Comme je disais à d'anciens collègues tantôt dans la station, je serai toujours disponible pour la mémoire collective.
On en prend bonne note.
Parce que, comme je te disais, j'ai vécu beaucoup d'événements dans mes 50 ans de carrière, là, puis c'est important qu'il y ait des gens qui soient encore là pour les rapporter, les relater.
On va se dire que c'était une première, mais c'était pas une dernière.
C'est bon.
C'est bon. Parfait. Merci, Denis Langlois.